sujet qui est à la mode, qui est le sujet de nos déchets. Alors, je m'appuierai sur le plan suivant, mais des fois j'irai vite parce que le temps presse. Alors, quand on parle des déchets, il faut voir on en parle depuis longtemps parce que c'est un problème d'environnement. Et l'environnement, il se traite dans trois grands domaines, essentiellement. L'environnement matériel, le domaine de l'eau, le domaine de l'air et le domaine des déchets. Le domaine des déchets est très particulier parce que le domaine de l'eau, c'est pas très compliqué de le comprendre, c'est H2O. Alors H2O plus ou moins pollué, H2O plus ou moins rare, H2O plus ou moins chaude, plus ou moins froide, solide, liquide, gazeuse, mais c'est toujours l'eau. Et travailler dans le domaine de l'eau, ben c'est travailler autour de comment nettoyer l'eau, comment utiliser l'eau. L'air, c'est pareil, nous en respirons tous. C'est 4 cinquièmes d'azote, 1 cinquième d'oxygène, plus quelques petites bricoles qui circulent, plus des poussières, plus des températures, plus des fois un peu de CO2 qui fait de l'effet de serre, tout ça. Mais l'air, ce sera toujours 4 cinquièmes d'azote, 1 cinquième d'oxygène. Les déchets, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, tous les matins, vous en faites, nous en faisons tous les jours. Hein. Je regardais ce matin sur le journal à Paris. Voilà, nous faisons, le chiffre est d'aujourd'hui. 340 kilos, chacun d'entre nous fait 340 kilos de déchets dans sa poubelle tous les ans. Sans compter tous les déchets des poubelles de l'industrie, sans compter tous les déchets des poubelles du bâtiment et de l'agriculture et de la pêche. Donc je vais essayer de vous cerner un petit peu ce problème. Alors, d'abord, il n'y a pas un monde sans déchets. Le déchet, c'est obligatoire, c'est fatal, comme je dis. Les déchets biologiques. Il n'y a pas de vie. Alors, je vais profiter pour faire le tour d'un peu toutes les disciplines qu'on vous a enseignées ou qu'on va vous enseigner, pour que vous compreniez bien que, en fait, ce n'est pas la peine qu'on vous fasse un cours de déchets. Par contre, tous vos professeurs, dans tous les secteurs, pourraient dire les contributions de leur science à ce problème des déchets. Le professeur de biologie va vous expliquer les métabolismes. Bon, bah, écoutez, si vous prenez quelqu'un qui a 10 ans, qui avale grosso modo 1 kilo par jour d'eau, de solide, tout ça, pendant 10 ans, bon, enfin, pas 10 ans, on va dire, pendant oui, 10 ans, on va dire 10 ans, ça va faire 365 kilos par an, ça va faire 3650 kilos à l'âge de 10 ans. Il n'y a pas beaucoup de garçons de 10 ans ou de filles de 10 ans qui pèsent 3650 kilos. Où est parti le reste? Ce sont les déchets. Alors ensuite, c'est une fatalité chimique. Vous avez eu des cours de chimie, je suppose. Eh bien, quand on fait A plus B dans C plus D, souvent c'est parce qu'on veut C. Alors on va chercher du A dans la nature, on va chercher du B dans le laboratoire, on les fait réagir, on a le produit C, c'est celui qu'on voulait. Par exemple, de l'acide phosphorique. Mais il y a le produit D qui est venu à côté, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, ce produit D, si on n'en a pas usage, c'est un déchet. Et ça, tant qu'on fera de la chimie, comme vous dites maintenant, copier-coller, hein, ça marchera comme ça. C'est une fatalité technologique. Vous ne pouvez pas faire des trous sans enlever de la matière. Vous ne pouvez pas peindre sans en laisser sur le pinceau, et ainsi de suite. Donc il y aura toujours des déchets liés à la mise en œuvre des technologies. C'est une fatalité environnementale. Alors ça, c'est important. Plus on veut être propre, plus on fait du sale, ou alors on s'est lavé pour rien, hein. Donc, chaque fois qu'on veut que l'air soit propre, que l'eau soit propre, que les matières soient propres, on les nettoie. Et chaque fois qu'on nettoie, on fait de l'eau sale, ou de l'air sale, ou du déchet. Donc, c'est une nécessité, quand on nettoie, de faire des déchets. Et enfin, c'est une fatalité liée au progrès et à l'usure. Alors là, consommateur, jeune consommateur de tout un tas de produits modernes, de l'électronique et de la communication, vous verrez des chiffres un peu tout à l'heure. Bon, déjà, on ne peut pas rester toute sa vie avec la même paire de chaussures. Il faut bien un moment ou un autre changer de chaussures, il faut changer de vêtements, il faut changer de voiture, il faut changer de tout ça. Et les progrès créent des nouveaux produits qu'on a envie de consommer. Et l'usage fatigue les produits que l'on a, et à un moment donné, il faut s'en séparer, et c'est la cinquième source de déchets. Alors, très rapidement, dans quel système on fonctionne. On fonctionne dans un système où on fabrique des produits. À l'usine, on fabrique des produits. Il y a des déchets. On fabrique une voiture, il y a les déchets de l'usine de Peugeot, de Renault, d'ailleurs, qui a fabriqué des déchets. Il y a l'utilisation du produit. J'ai acheté une voiture. Ah, il faut changer les pneus. Ah, il faut changer le filtre à huile. Ah, j'ai cassé une portière. Ah, j'ai cassé une vitre. J'ai les déchets de la production. Et ensuite, ben, je n'ai plus besoin de la voiture. Ou elle est fatiguée, elle est usée, ou elle s'est cassée contre un mur. Je la jette, c'est la fin de vie. Ça devient un déchet. Donc, tout système, qu'il soit physique, mécanique ou vivant, tout système a une naissance, une vie et une mort. D'ailleurs, il y a plein de philosophes actuellement qui s'occupent beaucoup de ça et qui extrapolent le sujet à je nais, c'est la naissance du bébé, je vis, je consomme pendant que je vis, puis je meurs. Les vieux, ça commence à poser un problème aussi. Hein, donc, je suis bien placé pour le savoir. Donc, vous avez compris. Il y aura toujours des déchets liés à ce qu'on appelle le cycle de vie. Donc retenez bien ça, parce que maintenant, quand on voudra dire qu'un produit est bon ou mauvais pour l'environnement, on fera son analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, on verra, prenez un vélo, pour le fabriquer, il y a presque autant de déchets en nature, pas en quantité, qu'une voiture. Par contre, quand on l'utilise, presque zéro déchet. Et puis quand il a fini de mourir, et bien, ça fait comme une voiture, on récupère le métal, le caoutchouc, le plastique et tout le reste. Alors, je conclue de cette partie-là. Les déchets ne sont pas une science, mais toutes les sciences sont nécessaires pour faire les déchets. Où que vous alliez, en biologie, en chimie, en physique, en mécanique, en maths, en thermique, en géologie, partout, dans toutes les sciences, en français, en philosophie, en sociologie, partout, vous pourrez imaginer que cette science, à un moment donné, s'applique à la gestion du problème des déchets. Alors, on leur a donné plein de noms bizarres. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Pourquoi on leur donne des noms bizarres? Alors ça, quand vous allez rentrer dans un domaine, comme les déchets ou un autre, mais ça peut être la médecine, ça peut être la pharmacie, ça peut être le droit, vous verrez que les gens d'une corporation aiment bien s'inventer des mots qui sont les seuls à comprendre. Ça leur donne c'est comme une langue étrangère à leur seul usage. Comme ça, ils peuvent discuter entre eux, et puis vous ne comprenez rien. Alors on va vous dire... les D3E. Les déchets D3E, c'est le portable quand il est cassé que vous le jetez à la poubelle. C'est plus un portable, c'est un D3E. Il va rejoindre le frigo, il va rejoindre la cuisinière, il va rejoindre le micro-ondes, il va rejoindre tout ça. Allez, on continue. Alors, des quantités. Les quantités, je n'insiste pas, mais regardez, rien que pour la France, eh bien, ceux dont on parle tout le temps, ce sont les ordures, les poubelles, les déchets ménagers. C'est 34 millions de tonnes. L'industrie, c'est 93 millions en France. Hein. Et le bâtiment, c'est 340 millions. Et l'agriculture, 365 millions. Donc, on parle beaucoup plus des poubelles qui représentent que 4% du total et beaucoup moins des déchets de l'agriculture. C'est-à-dire que tous les pipis caca des cochons, des vaches et des moutons, plus tous les bouts de nourriture qu'on ne mange pas, tout ça, ben, voilà, tout ça, ça fait des déchets. Alors, regardez au niveau des petits objets. Au niveau des petits objets. J'ai trouvé ça sur une revue pas plus tard que la semaine dernière, aux USA, hein, parce que ça a été fait aux USA. Téléphone portable jeté par jour. 426 000 téléphones portables jetés tous les jours à la poubelle. 170 000, toutes les 15 minutes, les Américains produisent 170 000 piles. 1 million de tasses en plastique, vous savez, que l'on prend pour boire un petit café, pour boire un petit verre d'eau, eh ben, vont toutes dans les centres commerciaux toutes les 6 heures. Toutes les 6 heures, il y a 1 million de petites... Et on pourrait continuer comme ça, 600 000 sacs en plastique, 2 millions de bouteilles en plastique toutes les 5 minutes. Hein, voilà. Et ça, c'est ce qui constitue quelque chose de compliqué, parce que chacun n'a peut-être jeté qu'un gobelet par jour, et puis il dit qu'est-ce qu'on va faire de ce gobelet ? Et puis tous ces gobelets réunis, ça fait des quantités fantastiques. Le problème, c'est comment on va les réunir. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Je passe très vite. On en fait quoi ? Eh bien, premièrement, on récupère l'énergie. Si on m'avait dit aujourd'hui, parlez-leur d'un sujet intéressant, le plus important actuellement, ben, j'aurais dit non, mais je ne vais pas leur parler des déchets, je vais leur parler de l'énergie. C'est-à-dire que on a tous besoin d'énergie en permanence. Et la première des énergies, celle dont on ne parle pas beaucoup, nous, parce que nous, le problème, c'est qu'on en a trop de celle-là, c'est la nourriture, enfin, trop, pas tous, c'est la nourriture. On est sans arrêt à la recherche d'énergie. Et si le monde s'est développé dans l'industrie à une telle vitesse, c'est parce que il y a seulement 200 ans, imaginez par rapport à l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est que 200 ans? C'est rien du tout. Ben, rien, c'est même pas une fraction de seconde. Ben, il y a 200 ans, on a commencé à découvrir qu'il y avait dans le sol du charbon, puis du pétrole, puis du gaz. Et à ce moment-là, l'homme a eu les moyens de faire des choses extraordinaires qu'il n'était pas capable de faire avant quand il n'avait que le soleil, le vent et les animaux et sa force musculaire, y compris celle de tous les esclaves qu'il pouvait mobiliser. Et on est devenu complètement mégalo, plus rien ne nous arrête, on a fait des engins fantastiques, on construit des immeubles fabuleux, et tout ça s'est fait parce qu'on a tapé dans la cagnotte, gaz, charbon, pétrole. Et voilà-t-il pas que maintenant, eh bien, le pétrole se fait rare, le charbon il en reste encore, mais on verra, et donc on est devant une crise énergétique. Eh bien, et je pense que votre génération va la connaître. Moi, je ne suis pas très morose. Vous trouverez bien le moyen de vous débrouiller autrement. Ce sera à l'homme de s'inventer de nouvelles sources d'énergie. Elles sont plus ou moins connues maintenant. Et surtout, la façon de s'en servir. Ça sera plus compliqué. Ensuite, on peut récupérer la matière. Le fer, l'aluminium, le verre. Tout ce que vous mettez en tri dans vos poubelles va redevenir du fer, de l'aluminium. Quand vous achetez une voiture neuve, enfin quand on achète une voiture neuve, je ne sais pas si vous en achetez beaucoup encore à votre âge, quand on achète une voiture neuve, eh bien 60 à 70% du métal de la carrosserie a déjà eu une première vie, voire une deuxième vie. Donc l'acier n'arrête pas de recirculer. Donc il y a... Pour les matières organiques naturelles, bien sûr, on peut récupérer des sucres, des graisses, des protéines, donc toute la biochimie peut venir à votre secours. On peut récupérer tous les matériaux du bâtiment. Vous verrez maintenant, quand on démolit des immeubles, on récupère les gravats, on les broie, on refait du sable, on refait du gravier, on récupère les plastiques des fenêtres et des portes. Le papier, alors les trois grands, hein, retenez, partout on vous parlera, le papier, les plastiques... Et le fer, l'aluminium et le verre. Avec cela, vous avez. Et tout le reste, la matière organique, c'est plutôt pour faire du compost. D'ailleurs, ce matin à la télé, puisqu'à l'hôtel, je regarde la télé le matin en me réveillant, et ben, ils ont présenté une usine à Toulouse qui fait la partie plastique des ordinateurs, la coque des ordinateurs, avec un plastique fait avec du maïs ou des pommes de terre. Hein ? Donc, une fois que l'ordinateur a fini de servir, on récupère les pièces qu'il y a dedans et toute la coque de l'ordinateur, eh bien, hop, on la met à composter, puis ça fait du compost. Hein ? Voilà. Seulement, comme on le fait avec du maïs et des pommes de terre, OGM au passage, pour qu'ils aient beaucoup de produits intéressants, vous allez aussi avoir un autre problème un jour qu'il faudra régler. Est-ce qu'on fait des pommes de terre pour manger ou est-ce qu'on fait des pommes de terre pour faire des ordinateurs ? Est-ce qu'on peut à la fois manger et avoir des ordinateurs ? C'est un grand sujet pour votre génération. Vous penserez à moi quand ils se préciseront. Alors, on peut les mettre dans les champs. C'est le compostage dans toutes les maisons, maintenant, où il y a un jardin. On peut récupérer les bouts de salade, les épluchures, l'herbe coupée, tout ça, pour faire du compost, en fait, de l'humus, une sorte d'engrais, quoi. Voilà. Et puis, si on n'a pas pu les brûler pour récupérer de l'énergie, si on n'a pas pu récupérer des matières pour des raisons particulières, qui sont souvent des raisons économiques, mais là on ne rentrera pas dans le détail, eh bien on va s'en débarrasser. Alors soit en les brûlant pour rien, on les brûle pour s'en débarrasser, soit on va les mettre les détoxiquer, c'est-à-dire leur enlever leur côté négatif, hein, c'est un peu comme quelqu'un qui est méchant, on va lui attacher les mains, on va lui attacher les pieds pour qu'il soit plus violent. Ben là, c'est pareil, on va lui enlever l'arsenic, on va lui enlever le mercure, on va essayer de le rendre plus inoffensif, chimiquement. Et bien, soit on va le mettre dans un trou, dans une décharge, même si c'est un édifice très, très bien fabriqué. Alors, je vais faire quelques petits commentaires là-dessus. pour que vous ayez, en tant que citoyen, une vision un petit peu plus globale du sujet. Premièrement, les déchets sont des technologies à part entière. C'est-à-dire, si dans votre carrière, vous avez l'intention d'un jour d'être un technicien, d'être un ingénieur, vous travaillerez aussi bien dans l'aéronautique que dans l'industrie du déchet, et chacune des machines est aussi louable qu'une autre. C'est pas évident, c'est facile à dire, c'est pas évident à concevoir, parce que moi je l'ai vécu toute ma carrière, mais je pense que maintenant vous, ça, vous avez un peu plus de chance. On pensait toujours que c'était pas des vraies technologies, quoi, que c'était un petit peu du bricolage, alors qu'en fait ce sont des technologies des fois bien plus compliquées que les autres technologies. Ensuite, une notion très importante, qui vous choque un peu parce que vous aimez bien être binaire, parce que vous êtes dans la génération binaire, où c'est oui ou non, hein, c'est 1 ou 2, 0 ou 1, et puis voilà, c'est tout bon. Eh bien non, non, non. Pour traiter les déchets, pour traiter une poubelle, il n'y a aucune machine qui traite tout. Il faut traiter un petit bout comme ci, on va enlever le papier, puis après on va enlever le verre, puis après on va enlever le plastique, et puis après on va enlever le métal, après on va composter la partie organique, après on va brûler ce qui reste, et puis les cendres, on va les mettre dans un trou. C'est-à-dire qu'il faut faire des chaînes. Et c'est bien, au point de vue technologique, c'est bien de comprendre que c'est pas des, il n'y a pas de place pour les yakas et les faucons. Hein. Les vrais non plus, mais il n'y a pas de place pour ça. Alors, ensuite, des choix multiples. Alors, ça, c'est beaucoup plus embêtant. Par exemple, si vous prenez les plastiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plastiques? Eh bien, on peut faire de l'énergie, on peut faire des plastiques, on peut refaire des objets, on peut les mélanger à d'autres produits pour faire des isolants. Donc, on a 36 solutions. Et vous savez que ça, c'est très compliqué, techniquement, quand on a beaucoup de solutions devant soi, eh bien, il se trouve qu'on ne va pas aussi vite pour prendre une décision que quand il n'y a qu'une seule solution. Hein. Je ne sais pas si l'exemple que je vais vous donner est bon, mais moi, c'est ce qui m'arrive quand je vais avec ma femme au cinéma. S'il y a 10 films à l'affiche, on met une demi-heure pour décider lequel on va aller voir. Tandis que quand il n'y en a qu'un, on y va ou on n'y va pas, c'est vite vu. Hein. Et là, il y a beaucoup de solutions possibles. Et puis, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le cycle de vie. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des éco-bilans. Voilà encore un mot que vous allez rencontrer souvent par la suite. Il faut faire des éco-bilans, c'est-à-dire qu'il faut faire le bilan de si je fais ça comme ça, voilà ce que ça va me coûter en environnement. Si je ne fais pas ça comme ça, voilà ce que ça va coûter. Si je prends cette solution, voilà ce que ça va coûter. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur la bonne solution. Ce qui vous donne une idée de ce qui est très important, c'est qu'il faut discuter. Il faut discuter, il faut dialoguer. Et actuellement, par exemple en France, quand on veut mettre une usine de traitement des déchets, quand on veut mettre une décharge, quand on veut mettre une déchetterie, même un truc de compostage dans un quartier, eh bien les gens ne veulent pas, vous savez, ils veulent, les Américains disent « no in my backyard », pas dans mon jardin, c'est-à-dire chez les autres. Hein. Et les élus, ils disent « pas l'année de mes élections, no in my election year », et puis voilà, donc personne ne veut prendre la décision. Et donc... Ça, c'est votre rôle social. Je veux dire, dans la société, vous serez sûrement un jour ou l'autre confronté à ce genre de débat. C'est pas simple. Alors, je voulais maintenant vous parler des choses qui sont plutôt à la mode. Vous n'arrêtez pas d'entendre parler de partout de développement durable. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. Le développement durable, c'est, premièrement, de s'occuper en même temps, si possible, de trois choses. D'une part, l'économie, d'autre part, le social, et enfin, l'environnement. Et trouver une harmonie entre ces trois pieds du développement. Si on veut que le social et l'économique s'équilibrent, on est dans ce qui s'appelle l'équitable. Hier, la radio parlait sans arrêt du commerce équitable, c'est-à-dire que à la fois économiquement, celui qui fabrique, par exemple, du chocolat en Amérique du Sud, il va s'y retrouver au point de vue économique, et en même temps, il ne sera pas bouffé par les multinationales et il sera content de pouvoir vivre. Ce sera équitable, commerce équitable. Si on regarde ce qui se passe entre l'économie et l'environnement, il faut que ce soit viable. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, par exemple, je voudrais qu'il n'y ait plus un grain de poussière dans l'atmosphère de Paris intramuros, On peut toujours le dire. Et il y aura toujours des savants qui vous inventeront une machine qui purifie l'air de toute la ville de Paris. Mais à quel prix? Et comment? Comment? À quel financement? Donc finalement, il faut trouver un équilibre entre l'environnement et l'économie. C'est ce qui s'appelle la viabilité. Il faut que ce soit viable, que ça puisse vivre. Et entre l'environnement et le social, eh bien, il faut que ce soit vivable. C'est-à-dire qu'il faut que le milieu, par exemple, un milieu naturel, avec des habitants autour, eh bien, il faut que ce soit, qu'il y ait une relation entre le social et l'environnement qui rende le lieu vivable. Donc, si par miracle, et le jour où je pense que je ne serai plus là ce jour-là, mais vous, vous y serez encore peut-être, et peut-être d'autres après vous, c'est pas grave, on a le temps. Le jour où on aura réussi à se retrouver dans la partie qui est commune aux trois sphères, eh bien, on dira qu'on a atteint l'objectif du développement durable. Compris? Alors, pour y arriver, puisqu'on est parti sur les déchets, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les déchets pour y arriver? Alors, on y va. Alors, pour l'environnement, bah, le gros problème des déchets, c'est l'épuisement. Voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que vous entendez souvent les philosophes ou les cinéastes, tout ça, à la télé, dire « la Terre est fatiguée, elle est usée, voilà, on tire le pétrole, on tire le charbon, on tire le gaz, on tire les métaux, on fait 10 rotations sur le sol, la Terre est épuisée ». Il y a plein de films qui sortent actuellement, il y en a un de Colin Serrault qui va sortir, là, qui est déjà sorti, je crois, sur ces sujets, tout ça. Hein, hein, c'est pas Artus Bertrand avec « oh, qu'est-ce que c'est triste », non, c'est « qu'est-ce qu'on fait tous les jours ?» Eh bien, voilà. Il faudra un moment ou un autre que les déchets soient traités en sorte que on arrête, ou du moins qu'on limite cet épuisement. Même les ressources non recyclables, non renouvelables et recyclables, comme le fer, normalement, il ne disparaît pas. Depuis qu'il y a du fer sur Terre, il y en a toujours autant. Le problème, c'est qu'il est réparti dans des petites boîtes partout sur la planète et que ça coûte très cher en énergie pour le ramasser. Et puis les ressources renouvelables, ben voilà, on vous dit la forêt n'en peut plus, la mer, ben il faut arrêter de pêcher le thon rouge, il faut protéger les baleines, il faut même les ressources renouvelables, il faut essayer de les gérer. Et puis l'espace, hein, il faut que s'il y a des déchets partout, il n'y a plus d'espace propre, et donc il faut bien gérer aussi l'espace. Ensuite, alors il y a différentes pollutions là. Je ne vais pas insister parce que ça va nous entraîner trop loin. Mais sachez que vous allez retrouver là aussi tout ce qu'on peut vous apprendre en chimie, en physique, en biologie. Hein? C'est par exemple en géographie, le climat, le réchauffement. Toute la France, toute l'Europe, toute la planète discute actuellement de y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas un réchauffement. Moi, je pense qu'il y en aura un, qu'il soit naturel ou pas. Et que par contre, ce qui va surmanquer, ça va être le pétrole pour continuer à réchauffer la planète. Ça, c'est sûr. Donc, c'est l'effet de serre, le réchauffement de la planète. La couche d'ozone qui fait des petits trous là-haut. Ça, c'était les CFC des bombes aérosols qui ont disparu. Tous les produits toxiques, on n'arrête pas de dire, il y a du mercure, il y a de l'arsenic, il y en a dans les biberons des bébés, il y en a dans les godasses quand ils viennent de Chine, il y en a partout, il y a des produits toxiques. Alors, vous savez, c'est simple le problème. Hein. L'homme, il a à peu près, depuis l'ère économique, depuis l'ère industrielle, l'homme, ça veut dire, et la femme, l'être humain, il a en gros inventé une centaine de milliers de produits qui n'existaient pas avant qu'on utilise couramment. On en connaît une petite centaine bien, et puis un millier à peu près. Donc, on le connaîtra tous, on verra que tout produit qui n'est pas naturel, à un moment ou un autre, va poser un problème. Et puis, bon, il y a les pluies acides, il y a les photooxydants, c'est les bagnoles l'été, qui font des oxydes d'azote dans l'atmosphère, qui rendent l'atmosphère particulièrement suffocante dans les rues quand il fait chaud et qu'il y a toutes les voitures qui tournent. Ça, eh bien, évidemment, c'est l'époque catalytique, c'est les voitures mieux équipées, c'est le vélo, c'est tout un tas de réponses. Et puis, bon, il y a la radioactivité. Alors, je ne vous ai pas parlé des déchets nucléaires. L'eutrophisation des lacs, alors ça, c'est un peu comme la surbouffe. Hein. C'est-à-dire beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore dans les stations d'épuration qui vont dans le milieu naturel, eh bien, le lac, il lui arrive la même chose que l'obésité. C'est-à-dire qu'il a tellement d'éléments nutritifs que les plantes se développent à n'en plus finir jusqu'à obscurcir tout le lac. La lumière ne passe plus et puis tout l'oxygène se fait rare et puis la plante meurt. Hein, on meurt comme la grenouille qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf. Je ne vous ai pas parlé de la radioactivité parce que ce serait un sujet à part. Quoi. Le nucléaire, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça ne marche pas comme le reste de la chimie. Mais il y a aussi sûrement un grand problème avec les déchets de l'industrie nucléaire. Et puis, il y a la dégradation des paysages, ainsi de suite. Ensuite, ça y est, c'est bon. Alors, bon, après, il y a... Ça, c'est les accidents. On n'en parle pas non plus. Je vous parle du système quand il est maîtrisé par le citoyen. Quand une usine explose, eh ben après, hein, c'est comme une catastrophe, c'est comme les inondations, c'est comme les unités de traitement qui explosent. Vous avez trois énormes usines à Paris qui brûlent vos ordures ménagères en grande partie. Et bon, s'il y en a une qui explose un jour, il y aura sûrement des dégâts autour. Mais ça, c'est pas prévisible. Tout peut exploser à un moment ou à un autre. On va plus loin. Voilà. Alors donc, je me suis dit, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Éliminer. C'est-à-dire que la première chose à imaginer, le premier stade élémentaire, c'est qu'il n'y a rien qui traîne. Ce n'est pas la peine d'avoir des grandes théories sur les déchets alors qu'il y en a partout qui traînent. Donc on commence par tout nettoyer, tout ramasser, tout récupérer. C'est la première chose. Quand on arrive à un stade un peu plus développé, deuxièmement, on peut l'entrer dans le recyclage. C'est la position actuelle de nos pays, de la France en particulier. On développe une politique du recyclage. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des produits de plus en plus incluant du recyclage ou on va recycler de plus en plus de produits qui sont des déchets. Et puis, il reste la solution d'avenir, celle à laquelle je pense un jour certains d'entre vous peut-être travailleront, qu'on va appeler les non-déchets. C'est-à-dire avoir cette intelligence par rapport au développement durable, de construire des produits dont on a prévu au départ comment on allait les recycler, dont on a prévu s'ils étaient vraiment utiles de les fabriquer ou pas, dont on a prévu que s'ils sont réparables, on puisse les démonter, que si on peut les démonter, on trouve les pièces pour les remplacer. Donc c'est toute une autre philosophie. Alors là, vous avez des nouveaux mots qui apparaissent et qui seront des mots qui, qu'on le veuille ou non, domineront le monde de la fabrication dans les 10 ou 20 ans qui viennent, hein, pas encore tout de suite, qui vont s'appeler l'éco-conception, c'est-à-dire on va concevoir le produit dès le début, en sachant quelle va être sa vie quand on va l'utiliser, quelle va être sa vie quand on va s'en débarrasser. Ça s'appelle l'éco-conception. Hein, et ça, c'est le must du système. Alors, il y a un deuxième must du système qui est ce qu'on appelle... l'écologie industrielle. C'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit, j'aurais pu commencer par là, au début de l'humanité, de l'espèce humaine, si vous regardez comment on fonctionne comme la société. On fonctionne avec des producteurs, par exemple le blé qui pousse, la graine qui germe, les épis de blé. Ensuite, il y a des consommateurs, c'est-à-dire le lapin, l'oiseau qui a mangé le blé. Après, il y a une chaîne de consommateurs qui se mangent les uns les autres, jusqu'au dernier qui est l'homme ou l'aigle. Et puis après, tout cela fait que les gens meurent. Le blé sèche, les lapins meurent, les hommes meurent aussi, ils ont aussi leurs produits tout à l'heure du métabolisme. Et là, il y a une troisième race qu'on appelle les décomposeurs, c'est-à-dire les vers de terre, les bactéries, les champignons, les levures, toutes ces espèces que vous allez retrouver dans vos cours de biologie ne servent pas qu'à faire des produits neufs ou à expliquer des phénomènes du vivant, ils servent aussi, dans la nature, à tout recycler et le carbone refait son tour. Et donc, ça, c'est le cycle du carbone. Alors, ça, on n'a pas le temps, il faudrait faire une conférence là-dessus, un jour ou l'autre, mais je parle un peu à vos enseignants, ce serait bien de commencer l'initiation, par exemple, par le cycle du carbone, comment le carbone circule dans la nature. Comment il circule, comment il passe des plantes chez les êtres vivants, des êtres vivants dans le sol, du sol dans l'eau et l'air, de l'air dans les plantes, et ainsi de suite. Parce qu'on verrait que tout ça, c'est l'harmonie de la nature. Alors, quel est le problème? On a fait deux grosses bêtises dans cette histoire. La première bêtise, c'est d'accélérer le cycle tellement que le système naturel ne peut pas suffire, il faut mettre une machine pour aller plus vite. Et le deuxième, c'est de rentrer tout un tas de produits qui n'étaient pas prévus au départ. Je ne sais pas quel est à l'origine celui qui a inventé ce système, ou si c'est créé naturellement, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas prévu les matières plastiques. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on va lui faire de la matière plastique en maïs. Comme ça, peut-être que les petites bêtes, elles mangeront la matière plastique parce que ça vient du maïs. Je ne suis pas sûr que ça sera le cas, mais enfin, c'est comme ça que c'est prévu. Voilà. Et puis, on va arriver au dernier point, qui est l'économie et la société. C'est-à-dire comment on va gérer ça. Alors, je vous ai mis là quelques phrases qui sont des sujets de réflexion. Je n'ai pas grand-chose à expliquer, mais sur lesquels vous pourrez rebondir tout à l'heure. La notion de sale et d'impur. C'est intéressant un jour, dans des cours de français, des cours de philo plus tard, vous posiez cette question. Est-ce que la pureté est strictement toujours nécessaire? Est-ce que le sale n'a pas aussi, ou l'impur, ne fait pas aussi partie de la vie, ne doit pas être considéré comme tel? Le plus beau diamant sont les diamants colorés. Et les diamants colorés sont ceux qui ont des impuretés métalliques. Sinon, ils servent à faire des meules ou des bijoux de pacotille. Hein. Donc voilà, c'est une réflexion. La non-valeur. Vous êtes dans un système, et nous sommes dans un système, quand je dis vous, je parle pour moi, mais enfin moi je suis moins actif maintenant. Enfin j'ai en tout cas moins d'années d'activité devant moi. Il faut arrêter de penser que les déchets n'ont pas de valeur. Hier, en promenant dans le quartier Saint-Germain, puisque j'étais logé là-bas, j'étais surpris du nombre de galeries de peinture où les artistes présentent des œuvres faites avec des déchets, avec des bouts de bois ramassés au bord de la mer, avec des cailloux, avec des vieux pots de ferraille, tout ça. Donc réintroduction artistique du déchet dans la vie, c'est une façon de lui donner la valeur, mais ce n'est pas la seule valeur qu'il a. La noblesse de l'activité. Je crois que si déjà les concitoyens, si nous tous, nous respections les gens qui travaillent dans ce secteur, au même titre qu'on respecte un policier, enfin je sais pas, bon, un policier ou un avocat ou un notaire ou même l'épicier du coin, ce serait un grand pas fait. Hein. Tant qu'on assimile le déchet comme étant la chose qu'on jette, parce que par définition un déchet, par la loi, c'est tout produit que son propriétaire destine à l'abandon. Hein. Donc ça n'a plus de valeur, on l'a dans l'abandon. Et si avec en plus on n'a pas le respect de la chose, si on n'a pas le respect de la matière, ben, je pense qu'on ne fera pas de grands progrès. Une communication raisonnée. C'est un peu ce que j'essaye de vous faire, c'est-à-dire d'arrêter de vous présenter ce problème des déchets comme le fait la télé, comme le fait la radio, comme le font certains bouquins. C'est tout beau, le monde est beau, les papillons volent, c'est beau la nature, tout ça. C'est pas forcément besoin. C'est compliqué, c'est difficile, ça peut sentir mauvais, c'est dur à ramasser, mais c'est respecté. Et ça s'appelle la communication, c'est-à-dire il faut de l'information, il faut expliquer, comme j'essaye de le faire, peut-être avec pas de succès, mais en tous les cas, comme j'essaye de le faire, expliquer où sont les problèmes et les considérer comme des problèmes, et non pas comme des sacerdoces ou des choses tout en guirlandais, pleines de sucre et de miel. Alors, le jetable et le réparable, vous êtes la génération, plus que la mienne, encore du jetable. Bon, nous, on a commencé, nous, à jeter les appareils photos. Maintenant, vous jetez les portables, vous jetez tout. Peut-être qu'il va y avoir, probablement, à un moment donné, quelque chose qu'il faudra faire. Hein, quelque chose qu'il faudra faire. J'écoutais hier une information qui disait que ce serait déjà bien, par exemple, si tous les téléphones portables de toutes les marques pouvaient se recharger avec le même type de chargeur. C'est pas la peine d'avoir un chargeur par téléphone. Alors maintenant, ils vont lancer la voiture électrique. Et alors, le vrai problème de la ville, ça va être, est-ce que chaque marque acceptera que les bornes qu'on va mettre dans la rue pour alimenter les voitures, que toutes les prises aillent dedans? Si chacun fait sa propre prise, ça va devenir un peu compliqué, la gestion de la ville. Les riches et les pauvres. Les déchets, c'est une leçon un peu d'humilité. C'est-à-dire, moi, j'ai passé 25 ans, 30 ans dans un laboratoire. Je pense que j'ai vu à peu près tous les déchets de la planète défiler sous mes yeux, dans le labo et dans la nature. Des grandes villes du monde, je connais surtout leurs décharges, hein, que ce soit à Rio, au Caire ou à Madagascar, j'ai plutôt vu les décharges. Et il n'y a pas photo, je veux dire, le déchet est associé aux pauvres. Et puis, dans tous les bouquins, on vous dit c'est une richesse. Alors ça, c'est une réflexion aussi. Est-ce que les pauvres sont une richesse, par exemple? Voilà, bon sujet de français. Et puis, la notion de choix citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire, la notion de choix citoyen? Eh bien, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut décider et il faut que les citoyens s'expriment et se mouillent. Il ne faut pas déléguer aux autres le choix. Ça veut dire aussi que de la part des élus et des responsables, il ne faut pas poser les questions du genre « Est-ce que vous voulez une usine d'incinération ou pas ?» Il faut leur dire « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il pourrait y avoir ou ceci, ou cela, et aux gens de choisir entre eux. Donc là, il y a tout un progrès de la démocratie sociale, je dirais, qui va peut-être se faire. Voilà. Alors, pour conclure, c'est bon, là? Parfait. Ah, je vous l'avais dit. Premièrement, quelque chose, je ne me rappelle plus du titre, un livre qui vient de sortir, écrit par un Allemand, qui est angoissant, je ne vous le conseille pas encore, vous êtes trop jeune, la notion de déchet, c'est-à-dire on abandonne le déchet matériel, on abandonne le gobelet, la feuille de plastique, la bouteille, tout ça, et on regarde par exemple, je vais prendre un exemple marrant, le déchet de la chanson. Combien de chanteurs on a vu pendant 15 jours, tous les jours à la télé, qu'on ne verra plus jamais, qui ne chanteront plus jamais à la télé, ben ça va être un déchet de la chanson. Des gens qui ont écrit des super livres que personne n'a jamais lus, ben c'est des déchets de la lecture. Hein. Des gens qui n'ont fait rien dans leur vie, qui n'ont pas servi à rien, qui ont embêté tout le monde, ce sont des déchets. Alors oui, on peut aller très loin dans... À vous entendre, vous êtes nombreux dans cette catégorie. Alors, mais je plaisante. Je plaisante, je vous ai trouvé adorable, alors ça va. Bon, le deuxième aspect, c'est les déchets du futur. Alors rassurez-vous, le système n'est pas fini. Il est possible que, par exemple, à force d'envoyer des satellites, un jour, il y ait des tas de bouts de satellites en quantité tellement grande dans la planète qu'ils vont se percuter là-haut, ils vont se rencontrer, ça fait trop. Les milliards et les milliards de messages téléphoniques que vous envoyez, les ondes qui correspondent à ces messages ne meurent jamais, elles sont dans l'espace. Donc on pourrait imaginer qu'un jour ou l'autre, l'espace soit encombré par les milliards de messages qu'on envoie tous les jours, et qu'à ce moment-là, tout se mette à se dérégler. Par exemple, vous allez téléphoner, vous allez entendre Obama qui va vous dire « Qu'est-ce que tu as ?» Il téléphone à sa femme. Ça n'a rien à voir, ça va se mélanger comme ça. Et puis il y a alors le grand sujet, ça va être les nanotechnologies, parce que moi je vous ai parlé de la chimie de grand-père, là la mienne, avec des grosses matières, du fer, de l'aluminium. Maintenant, il y a les nanotechnologies. Je ne parlerai pas là-dessus parce que je n'ai pas assez étudié la question. Mais bientôt, on va avoir des produits dans les vêtements. On va avoir des produits, des atomes au niveau de l'atome, c'est-à-dire plus petit que le virus, plus petit que le cheveu. Et donc, parce que ça va vous faire une fibre synthétique qui transpire mieux, parce que ça va vous faire un truc qui va vous désodoriser le dessous des bras, parce que ça va vous faire plein de choses comme ça. Mais après, quand ça arrive dans mon domaine, c'est-à-dire quand le pull ne sert plus, qu'est-ce que ça fait ces nanomolécules, ces nanosatomes dans ces nouveaux matériaux? Ça va être un sujet, il faudra que vous travailliez. Voilà. Et le déchet planétaire, c'est ce que je vous ai dit, toute la planète. Mais... pour terminer, je peux terminer là? Bon. Et bien pour terminer, d'abord, merci d'avoir au moins fait semblant d'écouter, c'est déjà pas mal. Et puis, voilà, j'attends vos questions.